Bonjour à tous et bienvenue dans le 8e numéro de Sans langue de bois, votre émission politique sur les ondes de Transistor. La semaine dernière, Tatiana Fauconnet vous proposait le 2e numéro de Sans langue de bois, paroles de militants, consacré à l'Europe, avec autour de la table 3 jeunes militants, respectivement du PS, du FN et du Parti de gauche. Cette semaine, c'est une nouvelle édition du grand journal politique de la rédaction que je vous présente, remplaçant exceptionnellement Marie-Ève, vous l'aurez remarqué, et c'est Thomas qui, comme d'habitude, vous dévoile le programme de l'émission. Bonjour Thomas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une de l'actualité politique cette semaine, le feuilleton des élections de la présidence de l'UMP, tous les jours un rebondissement et c'est loin d'être fini. Prenant du recul avec ses annonces quotidiennes, Mathilde Ferrez analyse les conséquences et les enjeux de la crise actuelle que traverse le premier parti d'opposition de France. L'enquête de la semaine réalisée par Colline Allier sera consacrée aux violences faites aux femmes à l'occasion de la journée de lutte du 25 novembre et du manifeste des 313 femmes violées publié dans le Nouvel Obs. François Hollande annonce un plan pour endiguer le phénomène, analyse de la situation. Enfin, et puisque c'est bientôt Noël, vous verrez que François Hollande est la star de son ton bien particulier. Sans oublier la chronique mensuelle de Jérôme Bestic, Vue d'Europe, la rubrique Droit de suite et deux éditoriaux, cette semaine proposés par Louis Dubost et Amos Reichmann.
Depuis le dimanche 18 novembre, qui devait voir naître le nouveau leader du parti, ça n'arrête pas à l'UMP.
Comme dans une comédie, on passe de rebondissement en rebondissement.
Sauf que le comique de situation dans une pièce de théâtre est drôle parce qu'il finit par trouver une issue. À l'UMP, il n'en est rien. Le dénouement se fait longuement attendre.
Par conséquent, on ne rit plus. On rit même jaune d'une situation de crise politique ponctuelle qui traduit en réalité une crise politique plus globale. Retour sur ces deux dernières semaines agitées et ses conséquences sur la vie politique française.
Gaz de schisme à l'UMP. Un sujet réalisé par Mathilde Ferrez. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Vote, Copé. Victoire, Fillon, défaite, Juppé, militant, Cocoé, référendum. Depuis le dimanche 18 novembre, on ne sait plus où donner de la tête.
Oui, les annonces s'enchaînent sans qu'on comprenne bien ce qui se trame. Alors essayons de rendre plus clair, c'est un broglio dont la fin, au vu des événements, ne pourra être révélée que dans un prochain numéro. Rendre plus clair les élections à l'UMP, telle est votre mission, Mathilde, et vous n'avez pas le droit de la refuser.
Mistake will self-destruct in 5 seconds. Good luck, Jim.
Ça, c'est du lancement, Mathilde, quand même. Hein.
C'est vrai. Dès le soir de l'élection officielle, ça s'annonçait mal. Les deux candidats, Jean-François Copé et François Fillon, se déclaraient vainqueurs. Le lundi 19 novembre, on n'a plus qu'un nom, celui du maire de Meaux, et un chiffre, 98, qui représente les voix de différence entre les deux candidats.
Mais la défaite passe mal, évidemment, chez les fillonistes.
D'autant que les votes de certaines fédérations auraient été oubliés dans le comptage des voix. Alors Fillon crie à l'aide et en appelle à Alain Juppé le jeudi 22 novembre afin qu'il joue les médiateurs. De nouveau, c'est un coup d'épée dans l'eau. Samedi 25 novembre, on ignore toujours qui est le nouveau chef de l'opposition. Dimanche soir, une semaine après l'élection officielle donc, on a enfin une petite idée du vainqueur. La commission de recours proclame Jean-François Copé gagnant avec 952 voix d'avance.
Mais cette issue aurait été trop simple.
Eh oui. Le mardi 27, un nouvel acteur entre en scène, Nicolas Sarkozy. Il propose l'idée d'un référendum interne afin de préserver l'unité de sa famille politique, a-t-il affirmé. Dès le lendemain, le nouveau président de l'UMP s'y refusait, jugeant que la constitution par les fillonismes d'un groupe autonome à l'Assemblée rendait caduque cette proposition.
Voilà où nous en sommes actuellement, au moment où nous enregistrons. À vous, Cognac Jay.
Jean-François Copé serait, pour le moment, le vainqueur déclaré. Mais quelle victoire! Une victoire à la Pyrrhus, pourrait-on dire. Parce qu'indéniablement, le nouveau chef de l'UMP ne sort pas indemne de cette histoire. Sa crédibilité, comme celle de son concurrent, est bien entachée. Et une question, à qui profite le crime ?
La crise de ces dernières semaines n'est évidemment pas sans conséquences. Le principal parti de l'opposition, acteurs, politiques et militants, en ressortent exsangues. Ils ont en effet l'impression d'une défaite qui n'en finit plus depuis celle de mai 2012. Certains préfèrent alors se tourner vers de nouveaux visages, voire d'autres partis, plus porteurs d'espoir. Les principaux bénéficiaires se divisent en trois camps. les non-alignés de l'UMP, le tout jeune parti de Jean-Louis Borloo, l'UDI, et le Front National de Marine Le Pen. À l'UMP d'abord, tous ne sont pas perdants, n'est-ce pas Mathilde ?
Nathalie Kosciusko-Morizet et Bruno Le Maire, par exemple, n'avaient rejoint aucun des concurrents. Bien leur en a pris. Ils sont désormais compatibles avec le nouveau président, sans être brouillés avec son rival. Par conséquent, il y a de fortes chances pour qu'ils obtiennent une place de choix dans le nouvel organigramme à mettre en place en janvier. Leur absence d'engagement les a fait apparaître aux yeux des militants comme des vecteurs d'apaisement. C'est donc d'une double popularité qu'ils jouissent désormais. Ils ont l'attention du chef et des militants. Ils peuvent désormais regarder 2017 avec plus de confiance.
Ce ne sont pas les seuls à sortir renforcés de cette affaire, Mathilde. Jean-Louis Borloo a affirmé sur France Inter le lundi 26 novembre que, depuis que l'UMP connaît la crise qu'elle traverse actuellement, quelques 6000 nouveaux adhérents ont frappé à la porte de son parti.
Lors de l'inauguration du siège de son parti le mardi 27 novembre, Jean-Louis Borloo s'est senti pousser des ailes. Afin de prouver que sa coalition est crédible et déjà au travail, il a aussi promis que les premières investitures pour les municipales de 2014 devraient être annoncées dans les semaines qui viennent. Enfin, il n'a pas hésité à appeler les Français à rejoindre son tout jeune parti en considérant que l'avenir nous appartient.
Un peu plus à droite, au Front National, on se gargarise également du nombre croissant d'adhérents.
Oui, le parti de Marine Le Pen recueillerait en temps normal environ 150 adhésions par jour. Grâce à la crise Fillon-Copé, il en aurait reçu environ 400 dès le lundi 19 novembre et plus de 600 le mercredi.
On le voit, les conséquences pour l'UMP peuvent être redoutables. Une perte de son personnel politique et de ses militants qui conduirait alors à l'explosion définitive du parti. Mais au-delà de cette crise ponctuelle à l'UMP, le conflit auquel nous venons d'assister n'en dirait-il pas plus sur la réalité du principal parti de la droite française et sur l'état de la démocratie représentative en France aujourd'hui ?
Certes, Jérôme, c'est Jean-François Copé et François Fillon que nous avons vu s'affronter ces derniers temps. Mais ces deux hommes ne sont que les représentants d'un clivage qui, à droite, perdure depuis un petit moment.
Peut-être faut-il le rappeler, Thomas, que l'UMP créé en 2002 est le fruit de l'union du RPR et de l'UDF, deux tendances de droite au fond idéologique quelque peu différent. Le RPR chiracien prolongeait l'héritage gaulliste en promouvant la nation et l'autorité de l'État. L'UDF giscardien se voulait, en revanche, plus libéral en matière économique et sociale. L'UMP a évincé cette diversité, et cela d'autant plus avec l'arrivée en 2004 de Nicolas Sarkozy à la tête de la coalition.
À partir de ce moment-là, c'est lui qui a fait consensus. Et il a tout fait pour que ça dure. On a adopté le style et l'homme sans se poser la vraie question, celle du fond idéologique. Et quand l'homme a disparu, eh bien, la ligne de démarcation a réapparu.
Mais avec de nouvelles nuances, celle apportée par Nicolas Sarkozy. Désormais, l'opposition a lieu entre une droite décomplexée, héritage direct des années Sarkozy, et de la stratégie Buisson pour la campagne présidentielle de 2012, et un gaullisme social à la Fillon. Les militants semblent avoir davantage choisi le legs sarkozyste, par nostalgie de l'homme, probablement.
Par conséquent, on ne voit pas bien ce que défend l'opposition en ce moment.
Exactement. D'autant que le discours du nouveau président de l'UMP se plaît à rester dans le champ de l'anecdote. On ne connaît que trop son discours sur le pain au chocolat et le ramadan. Alors, une opposition à plat, c'est plutôt gênant pour la vie démocratique. Surtout que le mandat de François Hollande vient de commencer. On a alors besoin d'échanges dans l'hémicycle, de vrais échanges pour des lois représentatives.
Et c'est aussi important que ce tissu politique se recrée vite, parce qu'une crise de ce type ne se restreint pas à l'UMP.
C'est un processus qui affecte plus globalement tout le champ politique, de gauche à droite. En effet, le spectacle de fraude et tricherie encourage l'idée, déjà très présente dans l'électorat, du tous pourri, propice à l'abstention ou au partage avec les extrêmes de la révolte contre les partis de gouvernement. Privés d'un suffrage démocratique large, ce sont alors ces partis de gouvernement qui perdent beaucoup. Ils deviennent les élus par défaut, et non plus ceux qu'on a élus parce qu'on y croyait, mais parce qu'on n'y croit plus.
Gaz de schisme à l'UMP, un sujet réalisé par Mathilde Ferrez.